Notre étude de ce matin est la suite directe de ce que nous avons déjà abordé il y a quelques semaines avec le chapitre 7 et ce personnage mystérieux de Melchisédek, à la fois sacrificateur de Dieu et roi de Salem. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, bien sûr, tous ces enseignements sont disponibles sur CD. Il suffit de les commander donc à la rédaction. Alors, je ne reprendrai pas en détail les éléments que nous avons déjà étudié en introduction et puis dans les tout premiers chapitres, mais il est impératif de bien avoir à l'esprit le contexte, le profil de l'auteur ainsi que les destinataires de cette lettre. Permettez-moi donc un bref rappel du contexte de notre lettre et de son auteur, et notamment pour ceux qui évidemment bien sûr prendraient un peu le train en route. Donc la lettre témoigne de la compréhension du salut en Yeshua à une époque par des hommes qui, comme nous, n'ont pas été les témoins premiers de la vie de Yeshua. Et l'auteur est sans doute un érudit juif qui maîtrise parfaitement la langue grecque, mais aussi le judaïsme et ses rituels. Et il fera usage d'ailleurs de nombreuses références vétérotestamentaires et d'allusions à des pratiques juives connues de ses lecteurs. Les destinataires de la lettre sont donc très certainement des juifs qui connaissent parfaitement la loi et les prophètes, qui ont cru en Yeshua par la prédication de l'évangile qui leur a été annoncé, mais qui sont d'une certaine façon encore en tension, subissant des persécutions et tentés peut-être par un repli sur soi, voire même peut-être par l'apostasie. Dans le chapitre 7, abordé donc la dernière fois, nous avons plongé dans le rôle singulier du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'auteur n'hésitait pas à désigner Yeshua lui-même avec force et une argumentation précise comme le sacrificateur qui devait venir et qui était annoncé par les prophètes, et notamment au psaume 110 et en Genèse chapitre 14. Ce qui ressortait de son argumentation comparative avec la sacrificature à Aaronique, c'était l'excellence et la supériorité de l'ordre nouveau établi avec la force du serment. En effet, il s'emploie à désigner Yeshua dans son rôle de sacrificateur comme la réponse la plus excellente au problème posé du péché, mettant implicitement fin à l'économie lévitique. Et il le dit en particulier en Hébreux 7, verset 11, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. » Et puis encore plus loin au verset 19, « Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Il fait usage de superlatifs qui ne laissent pas indifférents. Verset 22, « Yeshua est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. » Et un peu plus loin encore, au verset 25, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Et encore un peu plus loin, au verset 28, soulignant d'ailleurs même le caractère définitif de l'excellence et de la perfection de Yeshua dans sa nature et dans sa mission, au verset 28, il dit ceci, « En effet, la loi établit souverain sacrificateur, des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait avec la loi, après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Alors le texte qui nous occupe ce matin va poursuivre le raisonnement de l'auteur en accentuant la perfection du nouveau modèle de rédemption en Yeshua. L'ancrage est certes toujours dans la loi et la Torah, mais l'auteur pousse plus loin une série de dualités et d'oppositions entre l'économie lévitique, en voie de disparition, mais dont la vocation était cependant temporaire, et puis l'ère messianique et la rédemption autour du nouveau sacrificateur, initiateur du chemin conduisant au Dieu très saint, la présence même de Dieu. Le chapitre 8 suit donc très logiquement, bien sûr, le chapitre 7 dans le développement de l'auteur. Et la plupart des commentateurs y associent également même le chapitre 9, voire même, d'une autre façon, le chapitre 10. Mais pour aujourd'hui, nous nous contenterons donc du chapitre 8 pour être peut-être même encore un peu plus, mais disons surtout le chapitre 8. Alors, lisons à présent le chapitre 8 qui ne fait en fait que 13 versets. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alors, on s'arrête dans notre lecture. L'auteur, bien sûr, comme à son habitude, et suivant le fait que les destinataires de sa lettre sont certainement des juifs messianiques connaissant parfaitement les Écritures, cite des passages des prophètes, et ici en particulier le prophète Jérémie, et ce pour sa propre argumentation. Ce qui surprend toutefois, ce sont ces superlatifs, ces comparaisons touchant à des éléments fondamentaux du judaïsme. On en est presque gêné par cette manière de relever l'imperfection de l'un ou la perfection de l'autre. On relève des termes comme « véritable » ou encore « une ombre » faisant face à la réalité, l'imparfait, s'effaçant devant le parfait ou encore la perfection. Il y a aussi question de première et de seconde, de nouvelle et d'ancienne. Bref, la rhétorique de l'auteur est une fois de plus déroutante. Mais voyons à présent les choses dans l'ordre. Et donc, d'abord, pardon, Hébreux chapitre 8, donc les versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le développement de l'auteur de notre lettre atteint à ce stade une sorte de point d'orgue, le cœur ou le centre de ce qu'il veut affirmer, rappeler à ses lecteurs. Le point capital souligne, en grec, le cœur même de son affirmation, c'est-à-dire que Melchisédek reste l'antitype dont j'ai parlé la dernière fois. Aaron et le service au tabernacle comme au temple n'ont pas encore apparu dans l'histoire que l'essentiel dont l'auteur veut parler n'est pas la future et pâle reproduction sur la terre du modèle céleste, mais la réalité céleste elle-même et le souverain sacrificateur qui en est l'architecte, c'est-à-dire Yeshua lui-même. Et l'auteur rappelle ici que le tabernacle construit par les Israélites dans le désert n'était que le reflet d'un modèle dans le ciel. Et il le rappelle ici au verset 5, lorsqu'il est dit « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. » Et en Exode 25, verset 40, il est mentionné « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Alors certains se sont posés la question de la manière dont Moïse avait reproduit le modèle qui lui était présenté, tout comme la forme du culte. Or, on a cette dualité implicite entre le modèle dans le ciel et sa reproduction sur la terre. Les Grecs, avec Platon, voyaient là une forme de chemin vers le divin. La mer, la terre et le ciel étaient en quelque sorte les trois portes menant au ciel, siège de la divinité. Le contraste entre la perfection dans le ciel et l'imperfection sur la terre creuse une sorte de fossé entre deux mondes radicalement différents, mais où ne s'établit aucun pont. Alors ça, c'est les Grecs. D'autres voient dans cette dualité répétée de l'auteur une pensée différente, une forme d'eschatologie ou une forme eschatologique à l'échelle des temps et des moments. Le ciel et la terre ne sont non pas opposés comme s'ils n'avaient rien en commun, mais comme le reflet l'un de l'autre. Le reflet est certes éphémère et voué à disparaître, tandis que la réalité d'en haut est éternelle et véritable. Le temps de l'un est abouti, tandis que l'autre vient à s'établir. La notion de modèle dans le ciel a été réfléchie par beaucoup de commentateurs qui ont vu également dans le temple d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 40 et chapitre 40 et suivants, une sorte aussi de modèle du temple sur la terre. On se heurte toutefois à un problème de timing. La vision d'Ézéchiel est postérieure à la construction du temple lui-même. Et dans l'hypothèse du modèle, on peut alors imaginer que ce temple fut vu par le prophète et pour une autre période et n'a pas encore été construit. L'auteur de notre lettre déroule sa comparaison en ne manquant pas de préciser ce qui rend meilleur et plus parfait l'original dans le ciel. En effet, il affirme rien de moins que « nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine. Le souverain sacrificateur dans le ciel est assis à la droite de la majesté divine. En d'autres termes, il est Dieu lui-même. Par ailleurs, le tabernacle original a été dressé par le Seigneur lui-même et non par un homme, comme il est dit, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » Une autre façon de réaffirmer la pérennité de l'ouvrage, Moïse et les Israélites avaient mené pendant plus d'une année un ouvrage de haute qualité et avec des matériaux précieux. Pour autant, aujourd'hui, il n'en reste rien. Le temple construit en dur, si j'ose dire, quelques siècles plus tard, avait besoin d'être régulièrement réparé par l'usure du temps. Il a cependant été détruit et il n'en reste rien à présent. Il est clair que le tabernacle dans le ciel vu par Moïse, comme le temple observé par le prophète Ézéchiel, sont toujours debout et ne subissent pas l'outrage du temps. N'est-ce pas légitime de qualifier de meilleur et de plus parfait ce qui a un caractère éternel ? Mais l'argumentaire va plus loin et ne s'arrête pas à la seule construction. Hébreux 8, verset 3 nous dit ceci : « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. » Un autre point capital qui différencie les deux sacrificateurs est la nécessité pour le second, sur la terre, de présenter une offrande pour lui-même. Le tabernacle sur la terre, reproduction du modèle dans le ciel, est l'objet d'un service cultuel plutôt lourd et conséquent. Le souverain sacrificateur n'était déjà pas plus pérenne que l'édifice lui-même dans lequel il exerçait, donc Hébreux 7, 23. La mort, bien sûr, l'empêchait d'accomplir son devoir. Il y avait nécessité d'un renouvellement constant. Mais plus que cela encore, c'est son imperfection elle-même qui devait le conduire à présenter une offrande pour son propre péché, avant de présenter le sang pour l'expiation du peuple. Donc on a non seulement une imperfection dans l'édifice, mais une imperfection dans le sacrificateur lui-même. Cette limitation temporelle, aussi bien que morale, rendait d'autant plus perfectible cet office et cette sacrificature. C'est pourquoi cette imperfection, si je puis dire, devait laisser place à un autre sacerdoce plus excellent et pérenne. Hébreux 8, verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte image des ombres et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, lorsqu'il lui était dit, comme on l'a déjà lu d'ailleurs, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. L'auteur de notre lettre fait ici un rappel implicite que le souverain sacrificateur exerçant son service dans le tabernacle établi dans le ciel ne peut pas accomplir son sacerdoce dans ce qui est la reproduction de celui-ci sur la terre. Yeshua, que l'auteur ne cite pas explicitement, mais qu'il sous-entend en permanence, est souverain sacrificateur d'un office qui n'est pas établi sur la terre. Il ne peut donc venir sur la terre comme souverain sacrificateur selon l'ordre aaronique, qui lui est perfectible par définition. Il est toutefois venu comme souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek et du tabernacle dans le ciel, comme l'auteur l'avait déjà dit en Hébreux 4, verset 14, puisqu'il est dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yeshua, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Et encore un peu plus loin, quand il précise que ce sacrificateur est toujours là, bien présent, pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Par ailleurs, le verset 4 sous-entend que l'impossibilité tient sans doute également du fait que le temple est encore en place au moment de la rédaction de la lettre. Et on imagine mal en effet qu'il y ait deux souverains sacrificateurs en place au même moment. L'un issu du modèle dans le ciel et d'une sacrificature parfaite, l'autre de son reflet sur la terre et d'une sacrificature perfectible. Poursuivons donc au verset 6. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Alors nous voilà plongés dans une série de comparaisons avec des superlatifs étonnants et qui suscitent quelques questions de fond. Cette succession de superlatifs, tandis que le temple est toujours en place à ce jour, a-t-elle un sens particulier? Est-elle une invitation à abandonner le temple et son rituel? Si la perfection ne pouvait être établie en ce monde, au milieu des Israélites, pourquoi l'avoir permise, même pour une période donnée? Alors on va tenter d'y répondre dans un petit instant. Ramenant le lecteur à la réalité présente, l'auteur amène nécessairement les destinataires de son propos à considérer un avant et un après, et même, plus précisément, un présent. Forcément, le présent prend le pas sur le passé. L'éphémère disparaît au profit de la réalité céleste, l'éternité devant le temporel. Le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, à savoir Yeshua lui-même, est toujours vivant. Son éternité le place au-dessus du sacrificateur dont les limites sont rappelées en permanence dans ce chapitre. Pour la première fois, apparaît dans cette lettre le terme de médiateur. Le souverain sacrificateur était certes un intermédiaire, mais pouvait-il être un médiateur et jusqu'à quel point? L'auteur reprendra le même terme associé à l'Alliance nouvelle au chapitre 9, verset 15, et au chapitre 12, verset 24. Et on le retrouve aussi d'une autre façon dans Job, chapitre 9, verset 33. Mais on retrouve cependant la même thématique de médiation dans un passage difficile de Galates, chapitre 3, verset 19 à 22. On va déjà lire d'ailleurs à partir du verset 18. « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi, elle, est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Yeshua le Messie à ceux qui croient. » Alors voilà un texte assez compliqué qui met en exergue cependant Yeshua comme le médiateur entre Dieu et les hommes. Et l'apôtre Paul, dans sa rhétorique adressée aux Galates, s'employait à dénoncer une fausse doctrine, un faux évangile qui consistait, pour faire court, à ajouter à la foi des croyants une observation de la loi comme condition supplémentaire au salut. Or, cette loi fut promulguée bien plus tard, bien après la promesse donnée à Abraham en réponse à sa foi. Si la thématique de Paul dans sa lettre est celle du moyen donné pour le salut, la promesse au patriarche est directement reliée à sa foi obéissante, dans Genèse 22. Dans ce récit de la Kéda, la foi du patriarche est en quelque sorte récompensée par la grâce divine qui pourvoit à l'agneau pour le sacrifice. Dans ce récit emblématique de la Genèse, on y trouve la grâce de Dieu, la justice de Dieu et la foi obéissante d'Abraham. Et il en résulte la confirmation d'une promesse qui reprend celles qui ont précédé déjà au chapitre 12, 15 et 17 de la Genèse. Paul va dans sa lettre user de l'argument de l'antériorité de la promesse de bénédiction faite à Abraham pour annoncer la supériorité de la parole divine annoncée au patriarche sur les promesses contenues dans la loi mosaïque. On peut parler ici de promesses entre guillemets meilleures, à l'instar de l'auteur de la lettre aux Hébreux, pour justifier l'annonce du projet de Dieu pour les nations au moyen de la foi, sans la justification produite par la loi intervenue plus tard. Et ce, dans Galates 3, verset 6 et suivant. Les païens qui donc s'approchent de Dieu par la foi sont décrits par Paul comme les descendants et les héritiers de la promesse faite à Abraham. Et Paul va plus loin encore en s'incorporant lui-même et avec lui tous les juifs qui viennent à la foi en Yeshua, dans la descendance sainte d'Abraham, en vertu de la promesse abrahamique de Galates 4, verset 1. Le médiateur dont parle Paul, ou dont Paul parle plutôt au verset 19 et 20, quel est-il? Outre la mention de la promulgation de la loi par les anges, mention directement issue de la tradition juive, il semble évident que le médiateur est ici Moïse lui-même, un autre modèle typologique du Messie. Certes, Moïse n'est pas sacrificateur, c'est Aaron qui le sera, mais il n'en demeure pas moins le modèle d'intercesseur en faveur du peuple. Nombre chapitre 11, nous est-il dit ici, versets 1 et 2. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Un peu plus loin, verset 10, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel, une fois de plus, s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, « Porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner ?» Ce texte du livre des Nombres est intéressant et met en lumière le rapport singulier de Moïse avec Dieu et sa place entre Dieu et le peuple. Mais revenons à notre texte de la lettre aux Hébreux, verset 6. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Le statut de médiateur est donc réservé à Yeshua seul qui, parce qu'il est vivant pour toujours et intercède en faveur des hommes, a obtenu un ministère supérieur. La médiation qu'il opère n'est pas effectuée en vertu de la loi, mais en vertu des promesses meilleures dont parle notre auteur. Il ne précise pas lesquelles, mais on peut sans doute inclure celles faites à Abraham et dont Paul fait référence dans sa lettre aux Galates. L'alliance plus excellente dont il est question, verset 6, est développée dans la citation du prophète Jérémie. Et je reviens à présent aux deux questions que j'ai posées et qui me semblent sous-jacentes à notre texte. Cette succession de superlatifs, tandis que le temple est toujours en place à ce jour, a-t-elle un sens particulier? Est-elle une invitation à abandonner le temple et son rituel? Alors il est difficile de répondre en l'état. Les destinataires de la lettre ne sont pas à proximité du temple de Jérusalem et sans doute que tous n'ont pas même mis les pieds de leur vie dans la capitale juive. Leur connaissance du rituel est certes importante, et il est possible qu'ils réalisent à quel point la situation de Jérusalem est fragile et que le culte est lui-même en danger face à la menace romaine. Ils étaient l'objet de persécutions de la part des Romains, et ils supposaient que leurs frères de Jérusalem étaient dans une situation analogue. La crainte de voir s'effondrer le sacerdoce lévitique à Jérusalem était sans doute de nature à affecter la solidité de leur foi. Peut-être faut-il voir dans la démarche de notre auteur non seulement l'exposition scrupuleuse du plan divin relatif au sacerdoce et au souverain sacrificateur, mais aussi, d'une certaine manière, un appel à relativiser les nouvelles alarmantes qui auraient pu leur parvenir de Jérusalem. Si la nouvelle alliance et le nouveau sacerdoce devaient prendre la place et être établis à la place de l'ancien, selon un plan divin, la foi de ces croyants ne pouvait alors qu'être renforcée. La poursuite des sacrifices au temple allait de fait rapidement cesser si l'oppresseur romain envahissait la ville en détruisant tout sur son passage. C'est là qu'il convient de relever une citation du Talmud que j'ai déjà donnée plusieurs fois dans nos études et qui résume bien la situation à l'aube d'une transition spirituelle majeure pour le peuple d'Israël. En effet, les Juifs à l'époque du Second Temple avaient une manière très particulière pour savoir si leurs péchés étaient pardonnés en ce jour de Yom Kippour. Le fait que le souverain sacrificateur reste vivant après avoir offert le sang dans le lieu très saint était déjà en soi une preuve indéniable. Cela dit, une tradition ancienne nous est rapportée par le Talmud de Babylone, en Yoma, chapitre 39b. Au jour de Yom Kippour, il y avait une tradition qui consistait à attacher un ruban de laine rouge à la tête du bouc qui devait être lâché. Quand le ruban devenait blanc, c'était le signe que Dieu pardonnait les péchés d'Israël. Il y a une affirmation dans le Talmud qui dit qu'environ 40 ans avant la destruction du temple, du second temple, soit donc à l'époque du ministère et de la mort de Yeshua, le ruban de laine rouge n'est pas devenu blanc. La même déclaration talmudique nous informe qu'au même moment, les portes du temple se sont ouvertes d'elles-mêmes. Et ce sont des portes monumentales, hein. Les anciens rabbins et maîtres juifs croyaient que ces événements étonnants étaient les signes que les péchés d'Israël ne seraient plus désormais pardonnés et que le temple serait bientôt détruit, que c'était en quelque sorte la fin de l'économie lévitique. Ces indications n'ont pas été retenues en général, mais elles sont présentes dans le Talmud. Si la perfection ne pouvait être établie en ce monde, au milieu des Israélites, pourquoi l'avoir permise, même pour une période donnée? En Galates 3,19, Paul indique que la loi a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à un temps déterminé où les héritiers de la promesse devaient hériter du salut. Chapitre 3, verset 19. Alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par l'intermédiaire d'anges au moyen d'un médiateur. Alors, il convient à ce stade de bien faire la différence entre la loi divine et immuable, telle qu'évoquée en Romains 7, 12, qui appartient à Dieu donc, et que Yeshua définit comme inaltérable en Matthieu 5, 17, et puis les lois régissant le culte lévitique et qui ne sont plus appliquées aujourd'hui. Je pense qu'il s'agit de ces lois relatives à l'exercice du sacerdoce aaronique qui avaient vocation à être temporaires. Ainsi donc, on comprend qu'avec le changement de sacerdoce, le changement de loi soit aussi nécessaire, comme le rappelle l'auteur de notre lettre donc au chapitre 7. Les hommes depuis Adam et Ève n'ont pas changé et les règles données par Dieu à leur sujet n'ont pas été altérées par le temps ou les circonstances. Le rôle pédagogique, en revanche, joué par la loi pour les Israélites est indéniable. C'est en le tenant par la main, nous est-il dit, que Dieu a guidé le peuple, en Jérémie 31. Il a été un pédagogue jusqu'à ce que mûrisse un peuple préparé à recevoir le message d'une alliance nouvelle, régie par un sacerdoce nouveau, et élargi non seulement au peuple d'Israël, mais au monde entier. Plus encore que la pédagogie paternelle et maternelle de Dieu envers un peuple pas facile à corriger, le sacerdoce aaronique est le cadre dans lequel Dieu instruit le peuple au salut et dans lequel la rédemption doit s'opérer en vertu d'un sacrifice sans commune mesure avec les nombreux animaux sacrifiés. Mais il vient un temps où la loi devient ce qu'on appelle le « qui-iem » dans Matthieu 5, verset 17, terme rabbinique désignant un accomplissement pour le salut des hommes. Cette alliance nouvelle annoncée par Jérémie est supérieure, et rappelée ici en détail par notre auteur, va bien entendu être rendue supérieure en tout à celle que Moïse, qui régissait le culte du sacerdoce aaronique et qui était voué à disparaître. C'est l'objet de ce qui suit, est énoncé d'une bien curieuse manière. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voilà une expression plutôt troublante et qui sous-entend que la première alliance connaissait déjà un vice de forme. On a du mal à croire que Dieu aurait mal fait quelque chose, surtout d'aussi important. À moins que notre auteur ne veuille souligner autre chose. Dans sa rhétorique chargée de contraste et de dualité aussi marquée, le meilleur est forcément ici au-dessus du moins bon. Mais était-il nécessaire de mentionner un défaut à la première alliance? À vrai dire, nous touchons là à la problématique des alliances. Elles sont toujours à succéder, mais pas nécessairement à s'annuler. Nous avons donc l'alliance de Noé qui se situe après le déluge et qui est relative à la non-répétition de ce fléau, destructeur qu'était l'eau pour la terre. Puis l'alliance abrahamique qui semble pérenne, et Paul dans l'Épître aux Galates en souligne l'importance et même la perpétualité en vertu de la promesse et même du serment, dans Galates 4 et Romains chapitre 4 aussi. Et puis l'alliance mosaïque qui régit essentiellement le sacerdoce et, comme on l'a vu, ne se substitue pas à l'alliance abrahamique. Les lois relatives au sacerdoce, en revanche, ont pris fin avec la destruction du temple. Et les autres lois morales, on le comprend bien, ne sont, elles, pas du tout annulées. Car ce qui change avec la dernière alliance, c'est-à-dire la nouvelle alliance, c'est le sacerdoce et ses conséquences sur le processus de rédemption. Et puis vient la nouvelle alliance que seul Jérémie désigne de cette manière et se différencie de la première alliance sacerdotale par son caractère éternel et la pérennité de son seul sacrifice. Car n'imaginons pas que dans le tabernacle dans le ciel, on multiplie les sacrifices comme dans le tabernacle sur la terre. La seconde alliance s'inscrit donc dans une perfection qui fait percevoir la première comme défaillante. Mais c'est en vertu de l'exigence de la loi sous la première alliance que le sacrifice de Yeshua s'est opéré. Ainsi donc, l'imperfection n'est décelable qu'au regard de Dieu vis-à-vis des hommes, mais au regard du Messie qui s'est donné pour nous, la perfection est largement atteinte. L'auteur de notre lettre énonce maintenant l'ensemble de la prophétie de Jérémie, donc au chapitre 31 de son livre. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, et là il cite donc le prophète Jérémie, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voilà une longue citation donc, de notre auteur à propos de Jérémie. Le Seigneur connaissait certes l'échec d'Israël à persévérer dans la première alliance, l'alliance mosaïque. Mais cet échec n'est pas le fait de l'Éternel qui aurait mal préparé son plan ou qui aurait fait une erreur de casting avec un peuple récalcitrant. Non, la formulation singulière de notre auteur est à mon sens davantage là pour souligner les limites du peuple et la nécessité de le préparer à une solution qui ne vienne pas de lui-même, mais de Dieu seul. Le verset 9 est comme un double constat mettant en lumière l'impossibilité qu'il y a à envisager une quelconque voie d'issue au travers d'une persévérance dans ce sacerdoce-là. « Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Il faut donc un sacerdoce nouveau et, de fait, une alliance nouvelle qui soit fondée sur une réalité ancrée dans le sacerdoce aaronique, mais dont la portée se situe dans la sphère céleste et dans le tabernacle éternel. Le sacrifice de Yeshua s'est donc accompli en vertu des exigences de la loi mosaïque, mais sous un sacerdoce nouveau et éternel, selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi le changement de sacerdoce entraîne aussi le changement d'alliance. L'alliance nouvelle est établie par Dieu sans contrepartie visible dans le contrat, Dieu est le seul signataire de l'Alliance et il dit à 6 reprises « Je ». Et il dit ceci « Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » La connaissance universelle du Seigneur, dont il est question au verset 11, se rapporte dans l'esprit du prophète à l'ère messianique. Mais l'auteur de notre lettre aux Hébreux estime que celle-ci est déjà existante, par anticipation pour ses interlocuteurs. Car qui peut dire qu'à ce jour, nous sommes véritablement dans une ère où il n'est plus besoin d'instruire pour connaître le Seigneur? Par ailleurs, le prophète semble réduire la portée de son alliance nouvelle au seul peuple d'Israël. D'autres prophètes, cependant, sont plus généreux sur ce plan. On peut reprendre en ce sens le prophète Ésaïe au chapitre 11, nous lisons à partir du verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce temps-là, en ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam, à Shinéar et à Hamat, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Et on pourrait lire aussi Ésaïe 55, verset 5, qui va aussi dans le même sens. Le prophète Ézéchiel tient un langage semblable à celui du prophète Jérémie au sujet de l'action de Dieu dans les cœurs. 3 fois, il précise l'action divine dans les cœurs. Ézéchiel 11, chapitre 11, verset 17. « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. » Et c'est là qu'ils diront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. « Je leur donnerai un même cœur. » C'est Dieu qui parle. « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et encore un peu plus loin, au chapitre 36 d'Ézéchiel et au verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, une fois de plus encore, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. » Et notre chapitre 8 s'achève avec le verset 13, qui là encore surprend, en disant « Une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. » Et dans l'esprit des contemporains de la lettre, ce qui a vieilli ou qui touche à la vieillesse a une connotation péjorative et négative. On peut certes honorer le vieillard, mais ce qui a vieilli, en fait, touche nécessairement à la mort. Une alliance qui a vieilli est donc sur le point de disparaître. Est-ce là une manière pour l'auteur d'annoncer la fin de l'économie lévitique, déjà sur le déclin? Voilà, nous arrivons au terme d'un chapitre extrêmement dense, 13 versets uniquement, mais dont les échos résonnent bien loin, au-delà des apparences du texte. Le caractère nouveau de l'alliance va continuer à être décliné par l'auteur dans le chapitre suivant. Yeshua, comme souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, est une fois de plus comparé à celui du culte dans le tabernacle terrestre. Son excellence ne va pas demeurer à la seule fonction rituelle. L'auteur montrera comment le sacrificateur de la nouvelle alliance ne vient pas accomplir son service avec le sang des boucs ou des agneaux, mais une fois pour toutes, avec son propre sang. Quel plus excellent sacrifice pouvait donc être offert pour notre salut? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois.